pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le principe de Peter est une de ces théories à moitié scientifique, à moitié humoristique et magnifiquement contre-intuitive. Du nom de Lawrence Peter, un psychologue canadien qui formula cette observation empirique dans les années 70, le dit principe énonce que dans sa carrière, tout employé compétent bénéficiera d'une promotion jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence, d'où il ne sortira plus. Comme l'explique Jean-Paul Delahaye dans Pour la science, l'efficacité d'un employé occupant une fonction où il vient d'être promu est statistiquement moins bonne que sa précédente efficacité, puisque justement il a obtenu une promotion du fait qu'il était efficace. En s'approchant maintenant de la moyenne, ce qui est statistiquement inévitable, son efficacité baisse donc. C'est un peu comme dans une horloge, le dispositif mécanique du cliquet force les roues à tourner dans un sens et pas dans le sens inverse. Donc les employés qui ont atteint leur niveau d'incompétence ne sont plus promus, certes, mais ils ne sont pas rétrogradés non plus. À la fin, tous les postes finissent un jour ou l'autre par être occupés par des incompétents. L'idée est intéressante, notamment pour expliquer les mécanismes de violence qui se déchaînent au sein de certaines entreprises, les conduites de harcèlement qui nous intéressent aujourd'hui. On imagine ce que l'incompétence engendre de frustration, d'insécurité, de peur et donc d'une violence susceptible de s'exprimer contre le subalterne qui lui est encore compétent. Heureusement, la loi n'est pas imparable d'un point de vue logique, elle ne peut être complètement vraie non plus sur le terrain. De nombreuses études se sont attachées à le montrer et d'autres ont cherché des solutions pour y remédier. En 2009, Alessandro Plucchino, en se basant sur la théorie des jeux, a montré que ce principe, le principe de Peter, était inévitable, mais que la meilleure façon d'y échapper était d'abandonner carrément toute forme de méritocratie. Ensuite, au choix, on pouvait soit promouvoir n'importe quel employé au hasard, soit choisir au hasard aussi entre le meilleur employé et le pire. Dans son papier de Pour la science, Jean-Paul Delahaye cite encore plusieurs solutions, comme augmenter le salaire des employés compétents sans les promouvoir, ce qui me semblerait personnellement une excellente idée, ou bien virer les incompétents, ou pas bête non plus, vérifier les capacités avant de faire des promotions. Aujourd'hui dans les pieds sur terre, apparemment rien de cela n'a été fait. Lucia Sanchez a rencontré 3 victimes de l'incompétence et de la violence. Charlotte raconte un petit chef dans une banque, Pascal dans une grosse entreprise de prêt-à-porter et Anne dans une administration. C'est tout de suite dans les pieds sur terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Charlotte, j'ai travaillé avec un dirigeant bancaire fou à Lille quand j'avais 22 ans. C'était mon premier job, je revenais de l'étranger et lors d'une recherche d'emploi, j'ai rencontré une agence d'intérim qui m'a demandé si j'étais susceptible et calme pour me proposer de travailler avec une personne extrêmement difficile. Ne m'énervant jamais, j'ai donc accepté la mission. Donc c'était quelqu'un avec un physique assez classique, mais très un peu vieillot, assez froid, grand, mince. Il était hypochondriaque, rasé de près. Oui, il ressemblait plutôt à un papy. Et puis en dehors de ça, on n'avait pas envie de plaisanter quand on le voyait. En tout cas, en interne et même au sein du groupe, tout le monde savait qui il était. Donc les gens avaient plutôt peur. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils se mettaient à dos, c'était fini pour leur carrière, qu'ils pouvaient aller chez Pôle emploi s'inscrire. Ce qui était bien, c'est que j'étais bien briefée par l'assistante qui était là avant qu'elle parte. Et donc, elle m'avait bien coachée sur le personnage en me disant, voilà, il y a 3 choses à savoir. 1, ne jamais lui répondre. 2, ne jamais le contredire. Et ne jamais arriver en retard. Elle m'avait aussi dit que souvent, il faisait le coup de demander des choses urgentes le vendredi soir quand tout le monde partait en week-end. Elle m'avait donc dit de ne jamais lui donner mon numéro de portable, et ne jamais lui parler de ma vie privée, ni de mes parents, enfin de personne. Et donc, à chaque fois qu'il me posait une question sur mes parents ou ce qu'ils faisaient, je passais sur un point sur l'agenda. Et puis, quand il me demandait mon numéro de portable, je lui disais que j'étais en train de changer. Enfin, je trouvais toujours une excuse, parce que je savais très bien que le jour où je lui donnais mon portable, il allait m'appeler les week-ends et me pourrir toute la journée pour des conneries. Et du coup, je ne l'ai jamais donné. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il se mettait souvent en colère. Bon, en général, il hurlait mon prénom. Il devenait tout rouge, ce qui était assez comique parce qu'en fait, on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Et puis, il repartait dans son bureau. Puis, il revenait. Puis, il recommençait à hurler. Moi, j'étais assise à mon bureau. En fait, je ne bougeais pas. Je le fixais du regard et en lui disant, bah, j'attends que vous arrêtiez d'être hystérique. Et ensuite, on discutera. Mais je ne répondais jamais. Donc j'attendais qu'il se calme et du coup ça l'énervait beaucoup. J'avais donc trouvé une technique, rester calme et de toujours répéter la même chose dans le même rythme, de ne pas répondre à ses hurlements et passer sur un autre sujet, mais en choisissant toujours mes mots. Donc parfois je me levais, je lui amenais un verre d'eau, mais toujours sans parler et en le fixant du regard, pour bien lui faire comprendre que de toute façon, il pouvait faire la roue ou hurler ou se mettre debout sur une table, ça n'aurait aucun impact sur moi. C'était quelqu'un aussi d'extrêmement imprévisible, ce qui faisait sa grande force. Donc il pouvait être très sympathique une journée et infect l'autre. Et du coup, vous ne saviez jamais s'il allait être sympa ou normal. Et puis en dehors de ça, dans le but de me contrôler, il m'avait demandé de le prévenir quand j'arrivais le matin, quand je partais déjeuner et quand je rentrais le soir. Étant peu enclin à ce genre de comportement, j'avais donc décidé d'aller dans son sens, mais d'exagérer le trait. Et donc une journée, quand il y avait une grande réunion avec des grands dirigeants bancaires, voulant aller aux toilettes, j'ai donc tapé à la porte pour interrompre cette réunion, pour lui signifier que j'allais aux toilettes et que donc je m'absentais de mon bureau. À la suite de ça, il est venu me voir pendant la pause déjeuner, me demandant qu'est-ce qui m'avait pris et que j'étais complètement folle d'avoir interrompu une réunion aussi importante. Ce à quoi j'avais répondu, ben, je fais ce que vous me dites. Vous me dites de vous prévenir quand je sors du bureau, donc je fais ce que vous me dites puisque vous êtes mon patron. J'avais donc décidé de rentrer dans son jeu, mais en étant un peu plus maligne. Il y avait des portes, en fait, et du coup, il y avait mon bureau, une salle de réunion et son bureau. Il ouvrait toutes les portes le matin, parce que comme ça, il pouvait voir quand j'arrivais, puisque j'allumais la lumière. J'avais donc décidé, pour rigoler un peu, de venir le matin, donc à la même heure, comme tous les jours, parce que je n'étais jamais en retard, et de ne pas allumer la lumière. Et que donc, un matin, je suis arrivée, donc je n'ai pas allumé la lumière, j'ai commencé à travailler, et puis j'ai senti qu'il commence à ronchonner et puis il arrive dans mon bureau en me disant « mais vous êtes là ?» Et je dis « bah oui, enfin comme tous les jours vu que je travaille ici. » Et puis il me dit « ah mais vous allumez pas la lumière ?» Je dis « ah bah non, parce que là il fait jour donc je n'ai pas besoin. » Et puis il me dit « ah bon, bah prévenez-moi quand vous arrivez le matin. » Je suis « ah d'accord, ok, pas de souci. » Beaucoup en déplacement à l'étranger, qui participaient à des réunions internationales. La condition sine qua non était de parler couramment anglais. Lui-même le parlait très mal. Et donc me demandait de le corriger et me demandait derrière si j'étais sûre de mes corrections. Parfois c'était des choses qui étaient extrêmement basiques, comment on dit la date, enfin, des choses ridicules. Quand il m'arrivait d'être énervée ou fatiguée, parce que c'était extrêmement épuisant, soit je descendais puis j'allais faire le tour du pâté de maison pour m'aérer, soit j'allais m'acheter un gâteau, soit je descendais aux autres étages et puis je discutais avec les collègues histoire de souffler un peu. Donc on est arrivé aux fêtes de fin d'année, et donc j'allais au pot, et donc j'étais assise à une table, et en fait, puisque c'est un grand groupe, personne ne savait ce que je faisais ni avec qui je travaillais. Et là, en fait, les personnes parlaient donc du président, en disant qu'il était voilier, que c'était un taré, qu'ils espéraient qu'il parte bientôt. Et puis ils me regardent, et puis ils me demandent ce que je fais. Et donc je dis à ce moment-là, je suis l'assistante du taré. Il y a eu un froid, parce qu'ils ont eu très peur en fait que je répète et qu'ils se fassent virer, parce qu'ils auraient pu se faire virer. Mais je ne pouvais rien dire, puisque quand on est assistant de direction, on se doit de ne jamais critiquer son patron, même si on sait qu'il est voilier. Tous les grands patrons du CAC 40 ont ce côté un peu difficile ou sont sur une autre planète. Après, c'est pas forcément quelque chose de très agréable, mais ça vous forme. Vous ne pouvez pas progresser si vous êtes avec des gens qui sont gentils. Pour la fin de l'histoire, bon, au bout de 2 ans, puisqu'on me renouvelait en fait à chaque fois ce qui devait partir à la retraite, j'ai décidé que ça suffisait, que j'avais fait le tour. Quand j'ai fini, donc j'ai trouvé un autre travail à l'étranger. Et puis le directeur général est venu me voir pour me dire que finalement il partait pas et que j'étais prolongée. Et puis j'ai dit que je ne pouvais pas, n'étant pas qualifiée. Et puis j'ai fini en disant que j'étais pas psychiatre et que j'étais pas apte et que je pensais pas avoir les qualités pour continuer à bien les missions qui m'étaient confiées. Avant de partir, donc j'ai donc formé une nouvelle assistante qui, elle, avait beaucoup plus d'années d'expérience. Je lui ai donné les grandes lignes, à savoir ce que m'avait dit l'ancienne assistante. Ne jamais arriver en retard, ne jamais prendre d'initiative et ne jamais le contredire. Donc une fois, elle m'a raconté donc que donc ça allait pas du tout et puis qu'elle s'était mise à pleurer parce qu'elle n'en pouvait plus et qu'il l'a vue. Et ce à quoi je lui ai dit, à partir du moment où il a vu qu'elle était émotive et qu'il pouvait la faire pleurer quand il voulait, c'était fini, parce que ça veut dire qu'il a eu l'emprise. Et donc je lui ai dû conseiller donc de partir, parce que de toute façon là c'était fini, il allait s'amuser comme un enfant avec un jouet.
Je m'appelle Pascal Roche, j'ai 49 ans. Donc, quand l'histoire a commencé, notre directrice, en fait, avait remis sa démission. Il se trouve qu'une personne a été désignée. C'était une personne qui faisait partie déjà du personnel, mais qui était plus ou moins au placard, en fait. On ne savait pas très bien ce qu'elle faisait. Et cette personne avait un très bon anglais. Et je pense que c'est ce qui lui a permis de masquer pendant très longtemps son incompétence générale. Pour la décrire, c'était une femme qui n'était pas grande, qui était plutôt jolie, qui avait toujours une manière très calme de parler, mais on sentait que sous le calme, il y avait une maîtrise complète de soi. Et donc, la première chose qu'elle a faite quand elle a été nommée directrice, elle a passé la journée à aller chercher sa voiture de fonction, une Mercedes, et elle était tout à fait ravie et fière de pouvoir rouler dans la voiture qui lui assurait un certain statut social. Donc, on s'est dit déjà que les choses peut-être allaient se gâter très rapidement. Quand on lui posait des questions, elle répondait complètement à côté. Quand elle nous donnait des instructions, c'était complètement incohérent ou complètement délirant. On avait l'impression que dans sa tête, c'était une espèce de machine à laver permanente. On posait une question sur un sujet particulier et elle répondait sur un autre sujet et souvent elle mixait les deux sujets dans ses réponses. Donc dès le départ, notre relation s'est faite sur ce plan-là, c'est-à-dire elle me donnait une instruction, je captais un ou deux mots et je me disais, ah, donc elle me demande ça, donc c'est ce que je vais faire. Alors au départ, on a un petit peu ricané, on était plus dans la moquerie que dans la crainte et dans l'inquiétude. Je me souviens même en avoir parlé à mes assistants, j'ai dit, écoutez, elle est comme ça, je la comprends finalement, je pioche un ou deux mots à travers son langage et je comprends ce qu'elle essaie d'exprimer. Je l'ai défendue. Elle était complètement obsédée par les tableaux. Tout ce qu'on faisait, on devait le mettre en tableau. À partir du moment où c'était en tableau, alors les choses allaient beaucoup mieux. C'est-à-dire que quand on expliquait les choses comme ça, en face à face, manifestement, elle ne comprenait rien. Et puis, quand elle a commencé à prendre de la confiance, elle a commencé à être beaucoup plus directive et à être plus sèche dans les ordres qu'elle donnait. Elle a commencé à nous menacer, à nous dire si ça c'est mal fait, on va tous être virés, si ces mots sont répétés hors de cette réunion, c'est le licenciement assuré, c'est la sanction disciplinaire assurée. Donc elle a commencé en fait à faire peser sur nous des menaces de sanctions. Il y avait des gens avec qui elle était en conflit depuis plusieurs années et qu'elle n'appréciait clairement pas. Et elle a commencé à diriger son agressivité vers ces gens-là. C'était des instructions incompréhensibles et puis derrière, des remontrances. Et souvent, elle me prenait à témoin en disant « Tu vois, regarde, tu vois, elle a rien compris. » Donc, j'étais un peu complice parce que je prenais pas la défense du collègue qui avait été injustement sanctionné. Parce que finalement, je me rendais bien compte que c'était impossible de raisonner avec elle parce qu'elle était dans un autre monde. Quand le vernis sautait, là c'était la crise de nerfs, c'était l'énervement absolu, et là ça partait en explosion. Mais enfin, tu n'aurais pas dû dire ça, c'était à moi de le dire, comment peux-tu oser faire ça? Mais enfin, tu n'aurais jamais dû dire ça, tu n'aurais jamais dû faire ça, c'était ma prérogative, c'est n'importe quoi. Et bon, et après, évidemment, à partir du moment où quelqu'un qui est votre responsable commence à déchaîner une telle violence, vous vous recroquevillez, c'est-à-dire que d'abord vous vous dites « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et puis bah, comme c'est quelqu'un qui a le pouvoir de vous licencier, le pouvoir de vous sanctionner, qui est votre chef, il a une autorité naturelle sur vous qui fait que vous d'abord vous vous dites « c'est vrai, j'ai mal fait, je n'aurais pas dû faire ça. » Et donc à partir du moment où vous rentrez dans cette logique-là, alors c'est terminé. Je suis arrivé au travail et elle était dans une colère noire. Et j'ai compris qu'elle s'était embrouillée avec mon assistante. Elle s'appréciait pas trop. Et ma chef m'avait fait venir dans son bureau en me disant « Viens voir, j'ai quelque chose à dire ». Et en gros, elle m'expliquait qu'il fallait qu'on vire cette fille. Ça m'a mis dans une situation très difficile parce que c'est quelqu'un que j'appréciais, qui était compétent. Je ne voulais absolument pas la sanctionner. Donc je l'ai protégée dans un premier temps. J'ai temporisé. Quand elle me disait qu'il faut la virer, j'opinais du chef, mais je perdais du temps parce que je n'avais aucune envie de le faire. Et il se trouve que c'est mon assistante qui a elle-même pris les choses en main à un moment donné. Elle a commencé à se défendre elle-même, en fait. Comme elle se rendait compte qu'elle ne pouvait pas la virer, elle a commencé à lui retirer toutes ses tâches. Donc petit à petit, elle était de plus en plus isolée. Moi aussi, parce que je ne la sanctionnais pas alors qu'on me demandait de le faire. Donc en fait, on était deux à être victime de ces attaques, de ces violences. Mon assistante, à laquelle on était en train de retirer toutes ces tâches, et moi, dans le sens où on doutait de plus en plus de ma loyauté, puisque je ne licenciais pas mon assistante. Elle a commencé à demander ma tête. Elle me donnait de moins en moins de choses à faire. Elle était de plus en plus agressive avec moi. Et je sentais que petit à petit, je perdais le contrôle de la situation. Donc un jour, je croise ma chef et le chef de ma chef. Et ils me disent, tiens, viens Pascal, on a une réunion avec les représentants du personnel. On a une annonce à leur faire et ça serait bien que tu sois présent. Ok, pas de problème, donc j'y vais. Et puis la réunion commence. Eh ben, c'était un piège, c'était un guet-apens, c'est-à-dire que la moitié des représentants du personnel m'attaquent directement, violemment, en disant c'est lui, la pomme pourrie dans le panier, il faut le sortir, il faut le licencier, c'est un incompétent, c'est un nul, c'est un salaud. Enfin bref, j'ai été lynché pendant 10 minutes, un quart d'heure, par l'ensemble des représentants du personnel. Et à côté de moi, j'avais ma chef, et à côté d'elle, il y avait le chef de ma chef. Pendant les 10 minutes où je me suis fait lyncher publiquement, ils n'ont pas bougé un petit doigt. Ils m'ont laissé me faire abondamment insulter. Et la seule réflexion de mon chef au bout de 10 minutes, ça a été de dire « on va apporter une solution au problème ». À la suite de ça, j'ai eu une réunion avec donc ma chef et mon super chef. Et ils me disent « bon, t'as besoin de repos, après ce qui s'est passé, tu prends 2 jours ». Alors là, je dis « mais c'est 2 jours de repos ou c'est 2 jours de mise à pied ?» Écoute, t'as besoin de réfléchir à la situation, consulte les gens que t'as à consulter, ton avocat, etc. On se revoit lundi, on fait le point. Bon, à partir de là, je savais que c'était mort. Le lundi, je suis revenu, je me suis demandé si j'avais encore accès à l'entreprise. J'ai ouvert avec le badge a fonctionné. Donc, bon, là, je me suis rendu compte que j'étais pas encore complètement dehors, pas encore complètement viré. Mais ils n'ont pas eu besoin beaucoup de me pousser. Il leur a suffi de dire « tu réfléchis 2 jours » et j'avais bien compris que c'était fini, quoi. Alors, tant que j'étais dans l'entreprise, j'ai réussi à négocier ma sortie. Mais jusqu'au dernier jour, j'étais en panique. Je me disais, elle va me faire un coup de pression, ou finalement, elle va pas me payer ma transaction. Donc, j'étais complètement paralysé. Je n'osais plus rien faire. Et c'est juste le jour où j'ai mis le pied définitivement dehors que j'ai commencé à être soulagé. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer de me reconstruire en alertant l'entreprise de toute la violence qui avait été déchaînée pendant un an sur moi et sur tous les autres cadres de l'entreprise. Du coup, ils ont mis en place une enquête où ils ont fait des interrogatoires, ils ont reçu les autres cadres de l'entreprise qui étaient encore là, qui n'avaient pas été licenciés, et finalement, ils l'ont licencié pour harcèlement moral.
Je m'appelle Anne, j'ai 29 ans. Mon histoire a commencé il y a 3 ans. Après mes études en sciences politiques, j'ai passé un concours et j'ai eu un poste donc de cadre. Et là, j'ai vu arriver une femme à l'apparence, on va dire, sévère physiquement, mais aussi sur le plan vestimentaire. Assez petite, un regard assez dur, des petits yeux noirs un peu perçants. Donc, elle m'a accompagnée jusqu'au service. Elle avait explicitement pas regardé mon CV, donc elle m'a même pas expliqué vraiment en quoi allaient consister mes missions. Elle n'était pas libre non plus pour déjeuner avec moi, alors que j'ai appris ensuite que c'était la règle et qu'elle le faisait avec d'autres pour les accueillir, d'autant plus qu'elle était dans une posture un peu maternelle, peut-être j'aime dans le sens marâtre, parce qu'elle avait quand même ce côté sévère, mais un peu maternelle, en disant qu'elle était contente d'avoir une jeune fille blonde. Voilà, il y avait un propos assez chaleureux. Il se trouve que j'ai été placée au fond d'un couloir, c'est-à-dire dans un couloir qui était assez isolé, il n'y avait pas de chef. J'étais avec des assistants, donc ils ne faisaient pas du tout le même genre de travail. Je n'avais pas de tuteur et j'ai commencé à interroger ma chef sur le fait que j'étais pas du tout accompagnée. Et elle m'a dit, ben c'est comme ça, ici c'est à la dure, c'est la politique de la maison. Sa manière de communiquer était assez constante, sauf exception, c'était de l'arrogance. Donc elle rentrait dans le bureau, puis ça commençait un peu par un soupir aussi. Genre, bonjour, merci de faire ça, des choses comme ça. Parfois c'était bon, on va y arriver, mais de manière cinglante, laissant entendre que la personne n'y arrivait pas du tout. Après, elle n'insultait pas en personne les agents. Je pense qu'elle n'était pas stupide à ce point. Donc au début je me disais bon c'est pas grave, c'est un premier poste, il y en aura un autre après, mais quand même ça m'affectait. Pourtant petit à petit je me suis renseignée et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'éléments objectifs qui allaient dans mon sens, puisque déjà c'était un service avec un très fort taux de turnover, c'est-à-dire énormément de gens qui partaient et personne pour les remplacer. Il y a également eu une enquête, un questionnaire anonyme auquel on pouvait répondre pour noter le climat social de notre service. Et on a eu les résultats les plus mauvais de toute la direction générale, c'est-à-dire sur 1000 personnes. J'ai quand même continué, ça ne m'a pas affecté outre mesure, ça m'a un peu démotivée, mais ça ne m'a pas non plus démoralisée. Par contre, là où ça a commencé à se corser, et là où j'ai eu l'impression que ma vie privée en pâtissait, c'est à l'approche des fêtes de Noël. Donc, j'étais là depuis 4 mois. Au moment où il a fallu poser des congés, j'étais la seule qui n'avait pas droit d'en poser, mais il n'y avait aucun motif professionnel. Et pareil pour les vacances. Donc, soit les congés étaient refusés, soit les congés étaient validés la veille du départ, alors que je les avais posés 3 mois avant. Donc, j'ai dû aller un peu pleurnicher. J'ai dû motiver par un email. Et ce que je savais pas à ce moment-là, c'est qu'elles ont cédé, parce qu'un email, c'est une trace écrite. Et pour elles, une trace écrite, ça peut être le début d'une plainte. Au bout d'un an, un an et demi, j'ai commencé à avoir des envies un peu de meurtre. J'ai commencé à devenir agressive parce que je me sentais vraiment impuissante. Il y a certaines fois où j'ai rêvé que je la tuais ou que je fracassais sa tête contre une vitre. C'est vrai que ça m'est arrivé et c'était assez inquiétant puisque par ailleurs, je ne suis pas du tout de nature violente. Et quand je la voyais, c'est vrai que je lui souhaitais souvent de mourir. Donc j'étais devenue très mesquine et rageuse moi-même, un peu comme elle. parce qu'au fil des années, je me suis renseignée sur elle et j'ai appris que c'était une personne qui était un peu atteinte du syndrome du parvenu, c'est-à-dire qu'elle a commencé, elle était chef de service, donc avec un grade élevé, mais elle n'a jamais eu les bons concours, elle est arrivée par un grade bas. Petit à petit, elle a réussi à monter cadre, et cadre supérieur, elle l'a eu par une obscure promotion interne avec un appui. Donc, j'ai l'impression d'être broyée par un système. J'avais aucun moyen de faire valoir mes droits. En tout cas, j'avais l'impression que j'avais aucun moyen, puisque les ressources humaines tempéraient énormément la chose et étouffaient l'affaire. Donc, il y a un moment, il y a eu un déclic. Et le déclic, il a été occasionné par l'arrivée dans mon bureau d'une nouvelle recrue. Elle était plus gradée, et c'est vrai que le traitement qu'elle a eu était beaucoup plus valorisant. Donc déjà, là, j'ai pris en plein fouet la différence de traitement. Et en plus, cette jeune collègue, au bout de quelques mois, m'a fait part de son malaise vis-à-vis de mon traitement. Elle m'a dit « Moi, ça me gêne beaucoup que tu sois traitée comme ça, et d'autant plus qu'on est dans le même bureau. » Donc ça a créé vraiment un malaise même physique. Ma jeune collègue disait qu'elle avait mal au ventre quand notre chef rentrait et qu'elle me parlait, parce qu'elle me parlait toujours sur un ton très arrogant. Donc arrive Noël 2016, ça a alerté le chef de ma chef, donc c'était le directeur. Et je pense qu'il a eu peur que j'aille plus loin ou que je fasse un scandale. Donc, au bout de quelques semaines, m'a proposé un autre poste ailleurs. Mais dans l'histoire, ça a été remaquillé. On a dit, c'était une jeune femme qui n'arrivait pas sur son poste, alors on l'a enlevée pour lui rendre service parce que elle sera mieux ailleurs. Et heureusement, j'ai eu l'occasion de faire mes preuves dans mon nouveau service où j'ai été responsabilisée. Et il m'arrive de la croiser dans les couloirs. Donc on est dans un rapport qui est quand même encore conflictuel, c'est-à-dire qu'on fait un peu comme si rien ne s'était passé. On se dit bonjour, mais c'est vrai que je rate rarement, je dois l'avouer, un peu honteusement d'ailleurs, une occasion d'envoyer une pique. Donc je prends un air faussement naïf et je lui demande au niveau des embauches, personne ne vient dans votre service, j'ai pas été remplacée. Avec un petit sourire en coin où c'est très bien quelle est l'intention de mon propos. Au final, elle ne sera jamais vraiment embêtée, donc je pense que je lui en veux plus moi qu'elle. C'est vrai que j'ai mis du temps un peu à m'en remettre, parce que je suis passée d'un extrême à un autre, parce que j'avais tellement été maltraitée sur mon premier poste, que ça m'a fait bizarre d'être traitée normalement, enfin voire bien quand même.
Siempre que te pregunto qué cuando, cómo y dónde.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec des histoires de petits chefs, un reportage de Lucia Sanchez réalisé par Clémence Grosse. Merci à Charlotte, à Pascal et à Anne, à Stéphanie Rowels, à Élisée Coaching et à Gaëlle Châtelain ainsi qu'à Emmanuel Geoffroy. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. C'est Céline Autain, notre stagiaire, et c'est Alain Joubert qui a mixé cette émission.